À Brège avec ta mère, on va louper le début.
Maman, je... Ouais, je raccroche là, c'est... Non, mais c'est le début de l'AJT du local.
Et c'est sur l'autre radio.
Je ne sais pas exactement ce que vous faites à ce moment précis où je vous parle, si vous êtes en pause ou en voiture. Peut-être que pour certains, la semaine n'a pas encore commencé. Profitez-en pour nous, s'il vous plaît. Là maintenant, pour ne rien vous cacher, je pense à vous, amie éditeurice, au volant. Est-ce que vous avez ce sentiment de rouler sur des routes que vous avez trop vues, des chemins tout tracés? Est-ce qu'il vous manque de la surprise? Est-ce qu'il vous manque des bonnes nouvelles aujourd'hui? Ce type de pensée arrive et ça rend le début de semaine laborieux. Eh bien, voyez-vous, quand je pense à cette route de campagne sur laquelle vous roulez, je vois évidemment comme vous ces arbres dénudés, j'entends comme vous le vent qui souffle doucement, et dans mon pessimisme, j'ai aussi parfois cette impression qu'au bout du chemin, il n'y a que le silence. En tout cas, ce que l'on peut dire, c'est qu'au cœur de nos villages de campagne mayennais, il manque un souffle essentiel, celui de ceux qui soignent. Aujourd'hui, on parle désert médical, aujourd'hui, on parle d'une solution que nous propose une jeune association, un projet qui pourrait voir le jour dans quelques mois, celui d'un bus itinérant, avec à son bord un soignant qui parcourrait notre département pour venir à votre rencontre. Il s'agit de l'association CRAPS 53 pour Centre de Recherche et d'Analyse autour de la protection sociale en Mayenne, et celui qui justement nous en parlera particulièrement bien, c'est Sosthène Dufour-Pitois, son vice-président, qui sera à notre micro dans quelques instants. Bienvenue amis auditeuristes dans l'AJT du local, nous sommes aujourd'hui le lundi 25 novembre, journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes, et votre émission quotidienne en parle encore aujourd'hui. Puisqu'à l'occasion des actions proposées sur la Val Aglo, l'autre radio a recueilli 11 témoignages écrits de femmes qui ensuite ont été lus par les membres de l'équipe de l'émission Sorcière, et aujourd'hui on continue notre écoute. On terminera cette émission sportivement avec notre chroniqueur Mathieu qui est à mes côtés en studio. Bonjour Mathieu, comment vas-tu ?
Bonjour Margot, bonjour à tous.
Bien, on te retrouve donc à la fin de l'été, à la fin de cette émission. Ce qu'on peut dire à l'auditeur de l'autre radio, c'est de rester avec nous donc jusqu'au bout pour ton journal des sports qui va clôturer à merveille cette journée. Je vous propose bien maintenant de commencer déjà avec l'entretien du jour. C'est parti. L'AJT du local sur l'autre radio. Sosthène Dufour-Pitois, bonjour, vous êtes le vice-président de l'association CRAPS 53, comme je le disais tout à l'heure. C'est une association qui s'est créée en juillet dernier dans l'objectif de proposer une sorte d'alternative, en tout cas une solution pour pallier un peu aux problématiques de désert médical dans notre département, la Mayenne. Et donc, ce que vous proposez, ce que l'association propose, ce serait donc un bus itinérant qui circulerait en Mayenne pour venir à la rencontre des habitants. Déjà, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. J'ai envie de vous demander, qu'est-ce qui a motivé la création de ce projet ? Quelle est l'origine de ce projet-là ?
Eh ben, tout d'abord, merci de me recevoir et de me permettre de présenter le projet. La personne qui est à l'origine réellement de la création du CRAP 53, c'est Monsieur Mallet, Jean-Claude Mallet. Il est l'ancien président de la Caisse nationale de l'assurance maladie. Et je pense que la plupart des habitants de la Mayenne connaissent un petit peu la situation médicale, mais ça fait toujours du bien de le rappeler. Donc, par exemple, je peux vous citer une statistique là, qui est assez affolante. En Mayenne, on a 189 communes qui n'ont pas de médecin sur les 240 qui existent. Donc, c'est presque 80% des communes qui sont sans médecin. Donc, il y a un réel besoin dans le département d'avoir des actions comme ça qui viennent directement en aide aux habitants. Et donc, on a travaillé effectivement sur ce projet pendant quelques mois pour venir en aide aux habitants.
Effectivement, les chiffres sont toujours parlants. C'est toujours intéressant de pouvoir les donner. Vous allez me dire si je me trompe, mais j'imagine que les zones les plus rurales sont forcément les plus touchées dans le département.
Oui, les zones rurales sont beaucoup plus touchées. Ça se concentre essentiellement dans le nord de la Mayenne, on va dire, mais le sud n'est pas épargné non plus, donc nous, on compte passer à peu près partout dans le département.
Et alors, est-ce qu'on peut dire de cette problématique qu'elle concerne autant la médecine générale que les spécialistes ?
Globalement, c'est quand même dans tous les secteurs. Hein. Tous les secteurs sont, même les hôpitaux, etc., sont touchés. Donc non, ça concerne à peu près tous les domaines relatifs à la santé, malheureusement. Ça ne limite pas que la médecine généraliste.
Alors, si on revient sur le projet en lui-même, j'ai pu en dire quelques mots. Il va s'agir d'un bus itinérant qui circulerait sur donc, les routes de la Mayenne. C'est un projet qui n'est pas encore lancé, qui est encore en cours de réflexion.
Alors, en fait, l'idée, c'est de visiter environ une commune par jour. Voilà, on va faire quelques ajustements, mais voilà, l'idée c'est de tous les jours se déplacer dans une commune différente du département. On va en faire à peu près 200 en tout, sur les 240, celles qui ont le plus besoin d'aide, on va dire. Et l'idée c'est de proposer à chaque habitant, donc si vous êtes habitant en Mayenne, vous pouvez faire appel à nos services, de proposer pendant cette date de passage aux habitants de venir gratuitement dans on peut appeler ça une sorte de camion itinérant, animé par une infirmière qui proposera des dépistages gratuitement. Donc chaque habitant peut avoir accès à un entretien d'une vingtaine de minutes avec une infirmière pour procéder notamment à des dépistages et voilà faire un point sur l'état de santé. Donc ça peut être un bon moyen de se rassurer, voilà, de voir que finalement tout va bien et qu'on se porte très bien. Ou alors s'il y a quelques ajustements à faire niveau santé, l'idée aussi du CRAPS, c'est de diriger les gens qui en ont besoin vers les professionnels de santé qui sont compétents.
Oui, puisque finalement, dans une situation comme ce qu'on connaît aujourd'hui dans notre département, est-ce qu'on peut dire que le Mayennais attend plus longtemps avant de consulter un médecin pour ne pas déjà surcharger des plannings qui explosent déjà? Et donc, mais peut-être que le Mayennais s'alarme potentiellement moins sur des choses qu'il faudrait faire malgré tout contrôler, avec peut-être donc un risque de pathologie détectée ensuite tardivement.
Oui, c'est exactement ça. Il y a même des gens, voilà, avec le manque de médecins qui sont complètement laissés de côté, qui n'ont plus de médecin traitant, qui ne vont plus voir le médecin. Donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir reconnecter avec ces gens-là. D'habitude, c'est les gens qui se déplacent pour trouver un professionnel de santé. Et là, l'idée, c'est vraiment d'inverser le rapport et que ce soit nous qui nous déplaçons directement chez les gens pour répondre à ces besoins.
Est-ce que cette proposition de bus itinérant est quelque chose qu'il faut envisager comme provisoire ou est-ce que c'est quelque chose que l'on peut penser peut-être se pérenniser même dans le cas où la situation médicale s'améliorerait dans le département?
L'idéal, c'est évidemment de l'inscrire dans un cadre durable. Ce qui va se passer, c'est que le lancement est prévu début 2025. Pour l'instant, on a une date le 5 janvier. Voilà. Et l'idée, c'est évidemment, si le projet marche, etc., qu'on puisse renouveler cette opération. Voire même potentiellement la proposer dans d'autres départements aussi. Mais on va déjà réaliser un premier passage dans les différentes communes et on avisera ensuite. Mais évidemment, l'idée, c'est de pouvoir proposer quelque chose de durable.
Et alors, comment s'est passée la création de ce projet? Est-ce que vous avez pensé cette création à partir d'un modèle déjà existant? On sait qu'il y a effectivement des initiatives qui se créent à différents endroits du territoire national pour pallier à ce genre de problématiques.
Non, l'idée, c'est on n'a pas réellement d'inspiration. Après, on reçoit une certaine aide, notamment de la part de l'hôpital de Laval ou d'autres structures médicales. Mais non, on s'est pas réellement inspiré de projet. C'est vraiment quelque chose qui émane de nous directement.
Justement, alors on parle des partenaires. L'association, je le disais, s'est créée en juillet 2024. L'association, c'est donc le CRAPS 53 pour Centre de Recherche et d'Analyse autour de la protection sociale en Mayenne. Vous nous parlez là donc des partenaires. J'imagine également qu'il y a des besoins en termes de financement. Où est-ce que ça en est aujourd'hui par rapport donc à la mise en place concrète de ce bus itinérant?
C'est exactement ça. On est vraiment dans la phase de recherche de financement. Toute la partie un petit peu logistique, etc. a déjà été gérée. Niveau financement, ça tarde un petit peu parce que la situation, notamment politique en France, n'est pas très simple en ce moment, on va dire. Donc, par exemple, les entités publiques ont du mal à connaître leur budget et donc savoir combien elles peuvent nous proposer. C'est pour ça notamment que le projet ne se lancera qu'en 2025. Mais voilà, évidemment, on va essayer de trouver ça. Sinon, on voit, comme je disais, tout le reste est plutôt géré. Donc normalement, le projet devrait voir le jour.
Et alors, le coût d'un tel projet, il s'estime à combien aujourd'hui?
Alors, le projet, il me semble qu'on l'a estimé, le coût total du projet, autour de 100 000 euros, ce qui est quand même une certaine somme. Maintenant, on a évidemment trouvé déjà quelques partenaires, mais on fait aussi appel à des dons privés. Donc voilà, vous, citoyens mayennais qui nous écoutez, évidemment, si vous voulez nous venir en aide, vous êtes les bienvenus. On a notamment créé une cagnotte en ligne sur un site qui s'appelle Helloasso. Donc vous pouvez taper CRAPS53 Helloasso et vous pouvez directement faire un don en ligne depuis cette plateforme. Et depuis cette plateforme, vous pouvez aussi accéder à notre site internet qui est dans la description. Voilà le site du CRAPS53 et vous pourrez trouver plein d'infos, notamment les dates de passage dans les communes, etc. Donc n'hésitez pas. Et évidemment, on recherche aussi pas que des financements, mais des bénévoles.
Oui.
Et pour ça, vous pouvez nous contacter par email à l'adresse craps.mayenne, comme le département, @gmail.com.
Peut-être qu'on peut donner quelques indications sur les missions de bénévolat. À quoi est-ce qu'elles pourraient ressembler ?
Alors, ça peut être d'abord juste apporter une certaine aide. Vous avez une idée, vous avez une suggestion. Voilà, vous êtes, toutes les suggestions sont les bienvenues et sont traitées. Et après, ça peut être, on recherche du monde pour notamment conduire le camion itinérant dans les communes. On recherche également des infirmières qui pourraient proposer les dépistages. Donc, c'est essentiellement soit des idées, soit des gens qui seraient carrément disponibles pour venir nous aider dans notre mission, soit en conduisant le camion ou en réalisant les dépistages.
Et donc, pour vous soutenir sous forme de dons ou même de bénévolat, on peut vous contacter via votre site internet ou celui du CRAPS 53, ou même alors donc directement sur le site Hello Asso de l'association. Merci beaucoup, Sosten.
Et ben merci à vous de me permettre de pouvoir communiquer autour de ce projet.
Et nous prendrons donc bien évidemment des nouvelles.
Et ben merci à vous, et puis je vous dis à bientôt. Je reviendrai avec plaisir pour discuter de l'avancée du projet début 2025.
Merci beaucoup, Sosten. Dans quelques minutes, on retrouve la revue de presse du Haut-Anjou. Mais je vous parlais des débuts de semaine compliqués en introduction de cette émission. Alors c'est presque comme une évidence que pour cette pause musicale, j'ai choisi pour vous, pour nous, Jacques, La vie de tous les jours.
Dans la vie de tous les jours, il n'y a rien à célébrer. Chaque chose qui se passe ne fait pas un souvenir. Les sourires sont au repos, chacun fait ce qu'il doit faire. C'est pas comme sur les réseaux. Dans la vie de tous les jours, ouais, la vie de tous les jours. Dans la vie de tous les jours, c'est la vie de tous les jours. Dans la vie de tous les jours, il n'y a rien à signaler. Les voisins se disent bonjour et les chiens se laissent promener. Je suis content quand il se passe rien, au moins il se passe rien de mal. C'est pas ce qu'on voit aux infos, c'est la vie de tous les jours. Ouais, la vie de tous les jours. Dans la vie de tous les jours, c'est la vie de tous les jours. Les choses qu'on fait tous les jours n'ont pas vraiment d'intérêt, mais en vrai, n'a-t-on pas intérêt à faire ce qu'on fait? Au fond, je sais, mais chaque fois j'oublie, il n'y a rien de plus vital. Que le vide de tous les jours.
Commencer la semaine sans la revue de presse de votre hebdomadaire Le Haut-Anjou n'est pas vraiment un vrai début de semaine. C'est pour ça qu'on regarde les titres à la une chaque lundi ensemble. Alors le gros titre de la semaine nous emmène à Segré chez Johanna et Jonathan qui voient régulièrement les eaux usées de la ville se déverser dans leur salle de bain. En effet, c'est en 2017 que le couple investit dans l'achat de cette maison avant de débuter ses travaux en 2018. Ce que nous révèle Le Haut-Anjou, c'est qu'en septembre 2021, le premier sinistre se produit. Le couple est confronté à un refoulement des eaux usées dans la salle de bain et décide donc de contacter la ville sans aucune réponse. À l'époque, c'est un an plus tard, en 2022, que le second dégât a lieu. Après avoir été de nouveau sollicité, la ville répond enfin, ce qui n'empêchera malheureusement pas un troisième sinistre en 2023, avec 7 cm d'eau usée enregistrée à certains endroits cette fois-ci. Le couple déclare que l'origine du problème serait un endommagement lors d'une intervention des services publics. Depuis lors, des sinistres se produisent régulièrement. La collectivité évoque, elle, de son côté, de gros investissements et avoir fait ce qu'elle pouvait. Des expertises sont en cours de la part des techniciens de la communauté de communes ainsi que des techniciens de Suez. Une contre-expertise d'assurance doit être également effectuée. Aujourd'hui, c'est une problématique sans solution auxquelles sont confrontés Johanna et Jonathan. Une problématique qui aurait des incidences autant d'un point de vue professionnel, personnel que psychologique. Et on continue cette revue de presse à Château-Gontier avec les agriculteurs qui repartent en action contre le Mercosur. Il s'agit là des jeunes agriculteurs soutenus par la FDSEA qui sont repartis en action dans toute la France. Ici, l'article se penche principalement sur la ville de Château-Gontier puisqu'en effet, de nombreux panneaux d'entrée de ville ont été bâchés puis rebaptisés. On peut notamment lire Brésil, une référence au G20 qui a eu lieu au Brésil et bien sûr en lien avec le traité entre l'Europe et l'Amérique latine, le Mercosur. Les agriculteurs précisent ne pas vouloir la signature de ce traité qui ne respecte aucune contrainte sur le bien-être animal ou encore les normes environnementales que les agriculteurs français, eux, doivent respecter. Et on termine cette revue de presse dans le pays de Cran devant les agressions verbales, insultes et menaces qui s'intensifient. L'administration des trois pôles santé de Cran, Renazé et Cossé, a décidé de fermer ses trois secrétariats médicaux. 25 000 patients sont concernés. En effet, sur les 9 secrétaires, 4 sont aujourd'hui en arrêt, dont 3 à cause des agressions provenant des patients. Des mesures avaient déjà été prises à l'encontre de patients particulièrement concernés, en vain. Une situation qui, pour l'instant, perdurera jusqu'au retour des secrétaires en arrêt. Le personnel médical indique également ne pas vouloir aller vers la mise en place de plateformes Internet pour la prise de rendez-vous, car cela enlève l'aspect humain et certaines catégories en seraient exclues, comme les personnes âgées ou les personnes en situation de précarité. Je vous rappelle que votre hebdomadaire Le Haut Anjou est disponible en kiosque chaque vendredi ou en version numérique sur le site internet www.hautanjou.fr. Et alors, je vous le disais en début d'émission, nous sommes aujourd'hui le 25 novembre, c'est donc la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. Sur Laval Aglo, différentes actions sont menées. L'autre radio a, elle, recueilli 11 témoignages écrits de femmes qui ont ensuite été lus par les membres de l'équipe sorcière. Et aujourd'hui, on en écoute un nouveau. Écoutez.
Le 25 novembre, c'est la journée internationale de lutte pour l'élimination des violences faites à l'égard des femmes.
J'ai vécu l'inceste paternel. Celui qui aurait pu me protéger et me sécuriser a finalement décidé de me voler, de m'abîmer, de me tuer psychiquement. J'ai 36 ans. Il y a 20 ans, je ne ressentais que de la colère, de l'injustice. À qui j'allais bien pouvoir faire confiance dans ma vie, si mon propre père avait été capable d'une telle horreur ? À moi-même. Et ça a donné naissance à une fille déterminée, forte et courageuse, mais non sans faille. Il y a 10 ans, j'ai décidé d'aller voir d'un peu plus près les dégâts que cela avait causés, parce qu'il y a énormément de facettes de ma personnalité que je ne comprenais pas. Et surtout, toujours cette colère, cette aversion pour l'injustice, ce besoin de vérité. À 30 ans, j'ai commencé une thérapie. À 31, j'ai porté plainte. Ma famille m'a laissé tomber et je suis tombée dans une grande dépression. À 33, j'en suis sortie, encore plus forte, encore plus déterminée, et je n'avais plus rien à perdre. Plus de travail, plus de famille, plus de logement, je n'avais plus rien. Rien que cette fierté d'avoir été ma propre maman, mon propre papa, d'avoir agi avec autant d'amour pour moi. Si un jour j'avais des enfants, comment je pourrais leur dire de ne rien lâcher dans la vie et de se battre si je ne le faisais pas moi-même ? Tout détruire pour tout reconstruire. Grâce à l'aide d'une poignée d'amis précieux et de mon envie d'avoir une revanche sur la vie, brique par brique. À 34 ans, j'ai quitté ma région vers l'inconnu pour me donner cette chance de redémarrer. Et ces 2 dernières années, je n'ai fait que ce qui me plaît, tout ce qui me fait du bien. À 36, je m'autorise enfin à rêver, d'amour vrai, le beau, le véritable. Si la souffrance que j'ai vécue une bonne partie de ma vie représente la polarité du mal, dans ce juste équilibre, je devrais bien vivre l'amour inconditionnel. Après les peurs, les traumas, le manque d'amour, de soutien, la solitude, si j'ai fait en sorte d'apprendre à m'aimer, à m'estimer et que je continue à nourrir cet amour pour moi-même, est-ce qu'il y aura quelqu'un avec qui je pourrais le partager ? Est-ce que je vais construire ma propre famille ? Est-ce que je vais mourir heureuse ? J'ai des questions et des rêves de petite fille qui a besoin de douceur. La vie est belle, je suis sûre que j'aurai les réponses, brique par brique, avec tout mon amour.
Et alors avant le journal des sports, je vous propose un peu d'émotion. Fermez les yeux, ensemble on écoute Graham Allwright. Suzanne, vous reconnaîtrez. Écoutez.
Suzanne t'emmène, écoutez les sirènes, elle te prend par la main pour passer une nuit sans fin. Tu sais qu'elle est à moitié folle, c'est pourquoi tu veux rester sur un plateau d'argent. Elle te sert du thé au jasmin et quand tu voudrais lui dire n'a pas d'amour pour elle, elle t'appelle dans ses ondes et laisse la mer répondre que depuis toujours tu l'aimes. Tu veux rester à ses côtés, maintenant tu n'as plus peur de voyager, les yeux fermés. Une flamme brûle dans ton cœur. Il était un pêcheur venu sur la terre qui a veillé très longtemps du haut d'une tour solitaire. Quand il a compris que seuls les hommes perdus le voyaient, il a dit qu'on voguerait jusqu'à ce que les vagues nous libèrent. Mais lui-même fut brisé bien avant que le ciel s'ouvre. Délaissé presque un homme, il a coulé sous votre sagesse comme une pierre. Tu veux rester à ses côtés, maintenant tu n'as plus peur de voyager, les yeux fermés, une flamme brûle dans ton cœur. Suzanne t'emmène, écoutez les sirènes, elle te prend par la main pour passer une nuit sans fin. Comme du miel, le soleil coule sur Notre-Dame des pleurs. Elle te montre où chercher parmi les déchets et les fleurs. Dans les algues, il y a des rêves, des enfants au petit matin qui se penchent vers l'amour. Ils se penchent comme ça toujours. Et Suzanne tient le miroir. Tu veux rester à ses côtés, maintenant tu n'as plus peur. Voyager, les yeux fermés, une blessure étrange dans ton cœur.
Vous écoutez l'Agité du local sur l'autre radio 107.9 à Château-Gontier et 101.7 à Laval. Et alors on conclut notre émission avec Mathieu pour son traditionnel journal des sports en Mayenne après plusieurs semaines d'absence.
Bonjour Margot, bonjour à tous.
Alors Mathieu, commençons ce journal par la Coupe de France avec la qualification du stade Lavallois pour le 8e tour.
Exactement Margot, la saison dernière, Laval avait atteint les 8e de finale de la compétition, en battant notamment l'UFC Nantes. Et cette année, le club espère réitérer ce parcours. Mais avant ça, il y a une entrée en lice à faire. Une entrée en lice réussie pour les Tangos, samedi 16 novembre à l'occasion du 7e tour face aux voisins, l'AS Vitré. Dans un match compliqué, avec notamment la présence du froid, les Lavallois ont évité un match traquenard par excellence. Comme la Coupe peut en offrir, ils s'imposent dans la terrible et tant redoutée séance des tirs au but. Et dans ce genre de situation, ce sont généralement les gardiens qui s'illustrent. Du doubleur de Mamadou Samassa, le gardien à Lavallois Maxime Aubois offre la qualification aux siens grâce à deux arrêts décisifs. Laval s'impose au final 5-4 dans cette séance. Qualifié pour le 8e tour, Laval défiera Concarneau, équipe de nationale de 3e division. Il s'agit aussi du dernier tour avant les 32e de finale et l'entrée aux listes officielles des équipes de Ligue 1. Et pour information, ce match aura lieu samedi prochain à 14h à Le Basser.
Et en championnat, ça donne quoi Mathieu ?
Eh bah, bien, pour te répondre, il y a du bon et du moins bon. Le bon a lieu vendredi dernier à Guignon, face à Martigues, bon dernier du championnat. Face aux mauvais élèves de Ligue 2, Laval devait obligatoirement s'imposer. Face à Martigues, Chokunte, Camara et Doucouré ont inscrit les 3 buts du match et permettent à Laval de s'imposer 3-0. Et aussi par ailleurs, de mettre fin à une série de 4 matchs sans victoire. En parlant de ça, le club avait une mauvaise habitude, celle de mener au score et au final de se faire attraper. C'était le cas face à Clermont, 1-0 avant de s'incliner 2-1. Et face à Bastia, même chose, Laval mène 2-1 à l'heure de jeu et se fait rejoindre en fin de partie 2-2. Laval est actuellement 8e du classement avec 19 points au compteur.
On continue avec le ballon rond, mais cette fois avec le futsal et l'étoile lavalloise qualifiée pour le Tour Élite.
Exactement, et lors du dernier journal, je vous en avais parlé, avec la brillante qualification de l'étoile lavalloise pour le Tour Élite, à l'issue d'un tour réussi avec 3 matchs pour 3 victoires. D'ailleurs, en ce qui concerne ce Tour Élite, le club connaît déjà ses adversaires, avec des matchs organisés en Croatie du côté de Zagreb. Les 3 adversaires sont le Kayserispor Almaty, équipe du Kazakhstan, le Dynamo et Olmisum, 2 équipes croates. En ce qui concerne les dates, les Lavallois joueront cette semaine avec 3 matchs organisés. Le premier le 27 face à Kayserispor, le deuxième face au Dynamo le 28 et le dernier face à Olmisum le 30 novembre prochain. En attendant les échéances, Laval continue son petit bonhomme de chemin en enchaînant les succès. Et la dernière a eu samedi dernier face au Kremlin Bicêtre avec une victoire écrasante 8-2 pour les Stelits. Un match parfait pour se préparer et à l'heure actuelle, Laval est leader du championnat de D1.
Du cyclisme maintenant avec le Tour de France qui passera ici en Mayenne à l'occasion de la 8e étape.
Pour les fans de cyclisme, l'été 2025 sera immanquable. Déjà avec la 50e édition des Boucles de la Mayenne qui se tiendra du jeudi 29 mai au 1er juillet. Mais surtout avec le Tour de France pour la 112e édition. Et oui, l'une des plus célèbres courses du monde fera étape en Mayenne. Le 12 juillet 2025 pour la 8e étape. Date à noter, elle partira de Saint-Mien-le-Grand, ville située à Rennes dans l'Ille-et-Vilaine, jusqu'à Laval avec une distance de 174 km au total, avec pour point d'arrivée l'espace Mayenne. Cette 8e étape d'ailleurs fera aussi étape dans 12 communes du département, avec des villes comme Cran, Luisré ou encore Louverné. Dans l'histoire, Laval sera une nouvelle fois ville-étape après 2021.
Place au rugby et le ballon ovale avec le RC Lavallois en grande difficulté dans le championnat de Régional 2.
Cette saison, les semaines s'enchaînent et se ressemblent pour le RC Lavallois. Après Ancenis, Thouars, le RC Lavallois a de nouveau essuyé une nouvelle défaite le 17 novembre dernier au stade Jean-Pierre Changrogne. Face à Guenrouet, leader de la poule 1 de R2 et promu à ce niveau aussi, Laval s'est incliné 29-66 et enchaîne une 5e défaite consécutive. En championnat, le constat est sans appel. Le club est avant-dernier.
Tout le contraire de la SPTT de Laval du côté du volet.
C'est ça. Si le RC Lavallois enchaîne les déconvenus, c'est le contraire de la SPTT en volet, qui enchaîne les succès. Avec un 7-7. Ce dimanche, d'ailleurs à domicile, dans un choc de National 2, les Lavallois ont enchaîné une 7e victoire consécutive. Face à Niort, 4e avant le début du match. Les Lavallois se sont montrés solides face à l'une des meilleures équipes du championnat actuellement et aussi l'une des plus expérimentées. Mais malgré quelques erreurs et l'égalisation adverse au deuxième set perdu 17-25, les Lavallois l'emportent finalement. en reprenant l'avantage dans le troisième set gagné 25-23, avant heureusement de sceller la victoire en gagnant le quatrième et dernier set 25-19.
Mathieu, on conclut ce journal par les prochains rendez-vous sportifs à suivre en Mayenne.
Avant de vous dire au revoir, le prochain week-end sera de nouveau riche en sport ici en Mayenne. En rugby, déjà, le RC Lavallois recevra Pornic le 1er décembre prochain à domicile. Du côté du basket, l'US Laval défiera le Stan Vav. En volley, l'ASPTT se déplacera à Chartres dimanche. Et enfin, en football, le Stade Lavallois affrontera Caen en championnat le 6 décembre prochain. Après son match en Coupe de France face à Concarneau, avec on l'espère une qualification pour, qui aura lieu samedi prochain en début d'après-midi à 14h. Sur ces belles informations et ce calendrier est chargé aussi, je vous dis à très bientôt, chers auditeurs.
Merci beaucoup, Mathieu. À très bientôt.
À très bientôt.
L'agité du local sur l'autre radio. Et voilà, l'agité du local, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à Sostène Dufour-Pitois d'avoir été à notre micro pour l'association CRAPS 53. Merci à toi, Mathieu, pour ce très beau et complet journal des sports. Votre émission quotidienne se termine, mais ça continue sur les ondes de l'autre radio. Votre soirée commence avec Solénoïde. Comme chaque semaine, c'est un voyage sonore que nous propose cette émission. On s'offre un mix transversal de musique pas banale et ça commence donc à 19h. L'émission sera suivie à 20h de la discothèque du programmateur. Moi, je vous dis à demain pour une nouvelle émission de l'Agité du local. D'ici là, accrochez-vous. C'est le premier jour de la semaine, il faut tenir jusqu'au bout. Tenez-vous chaud avec quelqu'un qui vous est cher, ça adoucit plutôt les choses. Enfin, faites ce que vous voulez, faites ce que vous pouvez, mais s'il vous plaît, faites-le bien.
Bon, ben, Mimi, on dirait que c'est fini. Oh, ben, c'était bien, hein.